Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Chaque nuit, ton cerveau écrit une histoire, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h,
eh oui.
Sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli IDFM Radio et Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, high-tech, juridique, bien-être, musique, télé, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de rêves. Petit Manu nous parlera de l'origine de l'interprétation des rêves à travers l'histoire. Bonjour.
Ah bah bonjour Didier, bonjour à vous tous. Oh là, il y a beaucoup de choses à dire parce que les rêves, oh là là, ça passe le sujet de société. Et bah en tous les cas, tout petit ou grand, grand comme petit, vous saurez ce que c'est. Le dire, c'est une chose, mais une définition, c'est une chose. En tout cas, je vous en prie avec grand plaisir. Bonjour à tous.
À quoi ça sert de rêver? Pourquoi les rêves peuvent-ils être si absurdes ou illogiques? Pour répondre à nos questions, nous aurons une spécialiste du sommeil, le docteur Armel Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM et au Collège de France, et membre du conseil scientifique de l'INSV, Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Bonari va nous expliquer comment nourrir son bien-être intérieur en rêvant.
Salut Didier, salut à tous. Et si nos rêves étaient des alliés précieux pour notre équilibre, notre créativité et notre bien-être intérieur. Restez avec moi car je vais vous révéler pourquoi les rêves sont une véritable passerelle vers notre sagesse profonde, quels sont les bienfaits et comment se relier à ces rêves en 5 points pour cultiver le bien-être.
Les rêves ont-ils une signification? Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve, répondra à nos questions. Et pour notre page culture, Kevin nous proposera de deviner ces chansons qui parlent de rêves. Bonjour.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vous vends du rêve en musique avec 5 artistes réunis en un quiz musical consacré aux rêves.
Quand les séries nous plongent dans les rêves des personnages, c'est la chronique de Stani. Enfin, direction le rêve dans la culture pop avec Eric.
Salut Didier, salut à tous. Je vous invite aujourd'hui à rêver avec 2 films cultes à ce sujet. Paprika de Satoshi Kon et Inception de Christopher Nolan. C'est dans ma chronique.
Et l'émission est réalisée par Didier.
Didier qui contrôle tout, hein. Oh là là, rien lui échappe. Il a un œil de lynx.
D'ailleurs, regarde, j'ai accès à la coupure de ton micro. Hop. Voilà, je peux le couper. Enfin bref.
Oui, oui, non, en tout cas, c'est grâce à Didier. Soyez bien au courant, très fidèlement.
En moyenne, une personne rêve 4 à 6 fois par nuit pendant le sommeil paradoxal. Aujourd'hui, la science a beaucoup progressé et nous en savons beaucoup sur le fonctionnement des rêves et leur rôle dans le sommeil. Mais autrefois, dans l'Antiquité, les rêves étaient enveloppés de mystères. On y voyait des messages des dieux, des présages ou des révélations de l'avenir, comme va nous l'expliquer Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive. Bitton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors, après les très bonnes introductions de Didier qui a toujours raison, qui se trompe pas, et se trompe jamais pratiquement, et ben non, je continue, je poursuis. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient interprétés dans le temps pour guérir les maladies ou relever l'avenir. Eh oui, faut savoir. Des textes comme le livre des rêves ressentent des symboles précis, chaque animal, objet ou portant un sens. En même temps, oui, en Grèce, comme il en a très bien parlé Didier, ou à Rome, on croit qu'au rêve prophétique, donc ça peut...
prophétique.
Prophétique, voilà. Où les sanctuaires accueillent des patients en incubation.
En incubation,
voilà. Où on dort dans le temps, où on reçoit des indications pour la guérison par le rêve. C'est par le rêve qu'on arrive à guérir.
Et on... Des indications.
Voilà. Hippocrate, il voyait déjà des manifestations.
Hypocrite.
Non, c'est Hippocrate là. Oh là là. Ça se trouve farceur. Connaissez l'histoire? C'est pas un vieux sage qui on apprend à faire les grains. Ça se trouve farceur. Hippocrate, voilà. Peut-être le serpent Hippocrate pour les médecins. Voilà, je comprends. Voilà. Hippocrate, il voyait déjà des manifestations sur l'esprit, sur le corps. Au Moyen-Âge, l'Église interdit souvent de certaines pratiques divinatoire. Oh là là, mais les visions nocturnes sont interprétées comme des messages des anges ou des démons. Oh là là, les démons, c'est un peu la sorcellerie. Au 17e siècle et au 18e siècle, les songes sont étudiés pour comprendre la psychologie humaine. Le rêve devient des matières scientifiques. Freud révolutionnaire à l'interprétation. Le rêve est lieu de désir refoulé. Un langage symbolique sur l'inconscient. Oh là, c'est un peu de la psychologie, ça. Aujourd'hui, les neurosciences explorent le rôle des rêves dans la mémoire et la régulation des émotions et la créativité. Comme quoi, les rêves, c'est un peu de la psychologie. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, on pourra bien en parler et en débattre. Ça, c'est très intéressant, Didier. Faut bien savoir.
Voilà, merci, mon cher petit Didier. Manu. Chaque épisode de rêve dure généralement 5 à 20 minutes, mais peut atteindre plus de 40 minutes dans les dernières phases de la nuit. Au total, une personne passe environ 2 heures par nuit à rêver, soit environ 6 ans de rêve au cours d'une vie. Mais à quoi ça sert de rêver? Pourquoi les rêves peuvent-ils être si absurdes ou illogiques? Pour répondre à nos questions, nous avons le docteur Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM et au Collège de France et membre du conseil scientifique de l'INSV, Institut National du Sommeil et de la Vigilance, au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Comment le cerveau génère-t-il des rêves pendant le sommeil paradoxal? Parce que c'est pendant le sommeil paradoxal qu'on rêve. Hein.
Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que effectivement, on rêve beaucoup pendant le sommeil paradoxal. On s'en souvient aussi plus facilement. Mais on rêve également pendant le sommeil lent, mais les rêves sont un peu différents.
Ah d'accord.
Oui, pendant le sommeil paradoxal, en fait, les sommeils vont être beaucoup plus vifs, riches en émotions et en contenu, alors que pendant le sommeil lent, les rêves sont un peu plus routiniers et un peu ennuyants, si on peut dire, moins colorés et chargés en émotions.
Et à quoi ça sert de rêver? Est-ce que ça permet au cerveau de trier un petit peu les informations de la journée?
Voilà, parce qu'en fait, pendant qu'on dort, on va repasser en mémoire tout ce qu'on a vécu pendant la journée pour traiter cette information, soit consolider les apprentissages, soit au contraire les oublier. Et réguler surtout ses émotions à travers les rêves. Mais les rêves n'ont pas que cette fonction de réguler des émotions, ça va aussi consolider les apprentissages, comme je vous l'ai dit. Par exemple, si on rêve qu'on fait du vélo, tout simplement, eh ben, on va améliorer nos performances motrices. Le lendemain, on saura mieux faire du vélo parce qu'on se sera entraîné en rêve. Donc, c'est vraiment très important de rêver.
Oui, si on rêve fait du vélo, on va apprendre plus vite à faire du vélo.
Exactement, ça fait partie de l'entraînement.
D'accord.
Un pianiste qui révise sa partition la nuit en jouant, eh ben, il va mieux jouer le lendemain parce qu'il se sera entraîné la nuit.
D'accord. Et pourquoi les rêves peuvent-ils être si absurdes ou illogiques?
Ah bah ça, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, toutes les zones du cerveau sont pas activées pareil que pendant l'éveil. Et en particulier, le cortex préfrontal, donc c'est une région du cerveau qui est très importante pour la prise de décision et les raisonnements logiques. Cette partie-là, elle va être moins active. Donc ça laisse libre cours à tout le reste du cerveau de s'interconnecter et de communiquer différemment sans ce chef d'orchestre, si on peut dire, et ainsi mettre en relation des choses qui sont un peu saugrenues, qui n'arriveraient pas du tout dans la vie réelle, mais qui, grâce à cette inhibition du cortex préfrontal, nous permettent de faire des choses de dingue.
Et est-ce que tout le monde rêve? Parce que souvent, des personnes nous disent « Non, moi, je ne rêve pas ».
Alors, effectivement, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves, mais tout le monde rêve. Alors, ça va être beaucoup plus difficile pour certains que d'autres, parce qu'en fait, ça va dépendre en fait de notre niveau d'éveil pendant qu'on rêve. Est-ce qu'on se réveille juste après, qui permet d'encoder le rêve et de savoir où il est stocké ou pas? Et il y a des personnes qui ont des régions temporo-pariétales qui sont un peu plus actives que d'autres et qui vont avoir plus de petits micro-réveils, donc ils s'en souviennent pas forcément le lendemain, mais ça leur permettrait d'encoder le rêve, alors que d'autres auraient un peu moins de sensibilité, si je puis dire, à l'éveil, qui fait qu'ils ne se souviendront moins de leur rêve. Mais si on réveille les gens au moment où ils sont en train de rêver, on a de fortes chances qu'ils s'en rappellent, et ça permet de mettre en évidence qu'en effet, normalement, tout le monde rêve, même si on s'en souvient pas.
Alors, les nourrissons, ils rêvent aussi?
Il y a de grandes chances. Le problème avec les rêves, c'est que pour savoir de quoi on rêve, il faut des récits le lendemain matin au réveil, et que les nourrissons, ils mettent du temps à parler, à apprendre à parler, donc on n'a pas un retour d'information, mais il n'y a aucune raison qui laisse à penser qu'ils ne rêveraient pas. À mon avis, ils doivent rêver beaucoup de biberons et de leurs parents.
Et est-ce que les aveugles rêvent, du coup? C'est très difficile, à part les odeurs et les sons. Est-ce qu'on peut ne rêver que de sons ou d'odeurs?
Bonne question. Il y a des travaux qui ont été menés chez les aveugles. Alors, tout dépend depuis quand la cécité a eu lieu. Mais comme ils sont beaucoup plus concentrés sur les autres modalités sensorielles, c'est plutôt les autres qui vont prendre le devant, même s'ils rêvent quand même d'images, même s'ils n'en ont pas eu.
D'accord.
Donc, la proportion d'images par rapport au son est un peu différente. Mais ils ont quand même des images parce que le cortex visuel va s'activer À moins que cette zone-là ait été détruite, ce qui causerait la cécité.
Les animaux, est-ce qu'ils rêvent aussi du coup ?
Oui, ils rêvent aussi. Ça a pu être mis en évidence parce que pendant le sommeil paradoxal, il y a une atonie musculaire, c'est-à-dire que comme la région du cortex qui est importante pour la motricité, le cortex moteur, est assez active, il y a un mécanisme de protection de l'organisme qui se met en place et qui va inhiber les mouvements volontaires pour protéger et qu'on se blesse pas par des mouvements volontaires pendant la nuit. Et dans certaines pathologies, cette inhibition des muscles est levée, qui fait que les personnes peuvent mettre en mouvement leurs rêves. C'est comme ça qu'on peut voir à quoi on rêve. Et on peut du coup reproduire chez l'animal cette levée d'inhibition en faisant une lésion spécifique de ces neurones qui inhibent. Et on peut du coup voir, les animaux vont mimer leurs rêves et on peut voir que du coup, bah, effectivement, ils se mettent en action et on peut voir qu'il y a beaucoup de chasses ou de jeux qui se mettent en place à ce moment-là.
Et les rêves lucides, alors, c'est quand une personne prend conscience qu'elle est en train de rêver. Comment on peut apprendre à faire des rêves lucides ? Est-ce que déjà on peut apprendre à en faire ?
Exactement. Tout comme on peut apprendre à se souvenir de ses rêves, hein. Le matin, en se réveillant, en se focalisant, en se concentrant sur le contenu de ses rêves. En moins de 2 semaines, on peut vraiment faire d'énormes progrès sur ses rappels de récits de rêves. Et pour essayer de faire plus de rêves lucides, en fait, il va falloir arriver à activer ce cortex préfrontal, donc qui est vraiment situé juste au niveau du front. Mais il faut pas trop l'activer, sinon on se réveille. Donc c'est vraiment une juste balance qu'il faut faire. C'est pas évident. Mais il faut arriver à prendre conscience qu'on est en train de rêver. Et là, il y a plein de petites astuces. Par exemple, déjà en journée, regardez souvent ses doigts, ses mains, les compter, prendre vraiment le temps de les observer. Si on le fait plusieurs fois par jour, la nuit, comme je vous ai dit, qu'on repassait tous les événements de la journée, on va naturellement revoir ses doigts qu'on a observés.
D'accord.
Et là, ne me demandez pas pourquoi, mais en rêve, on n'a pas 10 doigts, on en a beaucoup plus, 12, 15. Et là, normalement...
Il y a un bug dans la matrice.
Exactement, et c'est normal, un déclic assez fort, parce que ça, je vous assure que ça déclenche une émotion assez forte. J'ai expérimenté, parce que je travaille aussi la nuit en rêvant. Et du coup, on se dit, ah mais je suis en rêve, donc du coup, je peux prendre le contrôle du scénario, je peux choisir ce que j'ai envie de faire et partir en rêve lucide.
Mais alors, c'est un peu comme une IA qui a du mal à recopier sur tous les mains, où il manque des doigts, ou alors il y a des doigts en plus.
Exactement.
C'est dingue ça, parce qu'on se dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans... Bah dans la matrice, quoi.
Ah, ça fait poser des questions, je suis bien d'accord.
Il y a aussi la paralysie du sommeil, on vient d'en parler un petit peu, notamment pour les animaux. C'est le fait, du coup, d'être réveillé, mais de ne plus pouvoir bouger, c'est bien ça ?
Exactement, au réveil, normalement, on a levé donc, de notre inhibition musculaire et on se réveille. Mais voilà, c'est la physiologie, des fois il y a des petits couacs et la chronologie n'est pas bien respectée. Si bien qu'on va se réveiller alors qu'on est encore inhibé musculairement. Donc c'est très impressionnant, assez fréquent, totalement bénin, donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste essayer d'expérimenter ce nouvel état et se dire, bon, bah, je vais quand même attendre que je me réveille vraiment et ne pas paniquer parce que ça ne sert à rien, ça ne va pas raccourcir l'inhibition ni quoi que ce soit, il faut juste prendre son mal en patience, c'est jamais très long.
Et les rêves, est-ce qu'ils peuvent être à l'heure actuelle détectés ou enregistrés grâce à l'imagerie cérébrale par exemple ?
Pas vraiment en fait. On arrive à regarder comment le cerveau s'active, on arrive à voir quelle zone du cerveau s'active à quel moment, mais arriver à décoder, à se dire « ah bah là vraiment ce phénomène est associé à un rêve ou pas », ça reste encore très difficile. Il y a des équipes qui s'y attachent, mais pour le moment c'est difficile à conclure.
Eh ben merci beaucoup, docteur Armel Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM et au Collège de France et membre du conseil scientifique de l'INSV, Institut National du Sommeil et de la Vigilance.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et si nos rêves étaient plus qu'un simple film de la nuit, chaque rêve est un messager de notre inconscient, une clé pour apaiser nos émotions, libérer nos tensions et retrouver un meilleur équilibre. Ponari nous explique comment nourrir son bien-être intérieur et que rêver, c'est prendre soin de soi. Et retrouver la chronique bien-être...
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Ponari.
Ce soir, je vous emmène dans l'univers des rêves. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir et pendant ce temps, nous rêvons.
Manu, c'est 2/3.
Non. Quoi que ça pourtant dormir, mais non.
Non, c'est vrai.
C'est pour ça que tu l'appelles pour le réveiller.
Il me tient au courant parce que des fois.
J'étais chez toi l'autre fois à 15h, t'étais en pyjama.
Non, très fidèle. Je pense qu'il vous fait ça aussi à vous. Vous sentez fidèle.
Attends, t'avais les vêtements froissés, t'étais ébouriffé. C'était une journée normale. Excuse-moi.
Non.
Tu n'es pas te lever.
Non, il est très fidèle.
Excuse-moi.
Te laisse pas déconcentrer. Parle-nous des rêves. C'est un grand farceur, Nick. Qui a bien senti bien. Continue où tu en étais, ma Serbonari.
Même quand nous pensons ne pas rêver, notre cerveau, lui, crée chaque nuit des scénarios étranges, poétiques, parfois bouleversants. Les rêves sont un langage, une sorte de miroir secret de notre monde intérieur. Alors pourquoi rêvons-nous ? La science explique que rêver permet de consolider la mémoire, d'assimiler ce que nous avons appris, de réguler nos émotions, et pendant la nuit, le cerveau trie, organise, libère. Mais au-delà de l'explication scientifique, il y a une dimension plus intime et mystérieuse, les rêves comme messagers de l'âme. Ils nous parlent à travers des symboles, des métaphores, des histoires qui parfois nous semblent absurdes, mais qui portent toujours une vérité cachée. Un rêve, c'est un peu comme une lettre envoyée par notre inconscient à notre conscience, à nous de l'ouvrir, de l'écouter et parfois de l'interpréter.
Ouais, bah si ça marche comme la poste, on peut attendre.
Faut pas comparer.
C'est incomparable à Didier.
Alors, quels sont les bienfaits des rêves sur notre bien-être ? Rêver, ce n'est pas seulement une activité nocturne, c'est une véritable hygiène émotionnelle. Les rêves nous aident à digérer nos tensions, ils nous permettent d'exprimer ce que nous n'osons pas toujours dire dans la vie éveillée, ils nous offrent aussi un espace de créativité illimité. Combien d'artistes, de musiciens, d'écrivains ont puisé leurs idées dans un rêve ? On raconte même que certaines découvertes scientifiques sont nées dans un rêve. Car la nuit, notre esprit n'est plus contraint par la logique. Il devient libre, il ose des connexions nouvelles, et puis il y a ces rêves lumineux, ces rêves qui nous laissent au réveil une sensation de paix, d'espoir ou de clarté. Ce sont des véritables cadeaux. Comment se relier à ces rêves en 5 points pour cultiver le bien-être ? Si nous voulons tirer profit de ce monde intérieur, il y a quelques rituels simples à mettre en place. 1. Créer un rituel du soir. Avant de dormir, apaisez votre esprit, éteignez les écrans et prenez un temps de silence, une respiration consciente, une méditation ou une musique douce. Vous préparez ainsi un espace propice aux rêves.
Petit Manu, éteins tes écrans le soir, le live c'est fini.
Non, mais continue.
Ne slame pas la nuit.
Non, mais continue, c'est très intéressant. J'adore ta chronique, moi je suis le premier fan. Vous aussi j'imagine.
Alors suis ses conseils.
Oui, on t'écoute. J'aime bien comment tu parles. Alors là, je me tais, je t'écoute avec grande attention.
Alors, 2, posez une intention. Les rêves parfois répondent à nos questions. Avant de vous endormir, formulez intérieurement une phrase comme « Que cette nuit m'apporte un éclairage sûr ». Voilà.
Ah, je vais essayer, tiens, ce soir.
Ouais.
Moi aussi.
Ouais.
Essayez.
Ah bah ouais,
on n'a rien à perdre.
Une bonne pensée, c'est vrai.
Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir des éclairs, qu'il ne va pas pleuvoir.
Ah bah ouais, tiens.
Et vous serez surpris parfois de voir à quel point vos rêves peuvent devenir des réponses. 3, tenir un carnet de rêves au réveil. Voilà, parce qu'on est beaucoup à pas s'en souvenir.
Ouais.
Notez immédiatement ce dont vous vous souvenez. Même des bribes. Plus vous écrivez, plus vous vous souviendrez de vos rêves au fil du temps. Ce carnet devient un trésor, un journal intime de votre monde intérieur.
Et c'est vrai que des fois, moi, c'est l'inverse. Je rêve, j'engueule quelqu'un et en fait, je me rends compte que la personne n'a rien fait, que c'était dans mon rêve.
Oula.
Ah, c'est une coïncidence.
Ça, c'est plus dangereux. Mais c'est vrai, hein, ça m'est déjà arrivé. Non, mais même... Que des fois,
ce qu'on vit dans la journée.
Ce que tu vis des fois la nuit, ça je trouve que ça a un impact, non ? Imagine que tu t'engueules avec quelqu'un la nuit, et tu le revois alors que t'as pas lieu de t'engueuler. Mais je trouve déjà que tu le vois différemment. T'es presque énervé, non ? Ça vous fait pas ça ?
T'as peut-être des choses à lui dire.
Ah oui !
Ah, c'est peut-être inconscient.
Oui, mais c'est l'inconscient là.
Ah je vais te le dire maintenant alors, petit Manu. Petit un.
Oui, mais Didier, une chose que moi je trouve ça extraordinaire, c'est comment t'arrives à t'engueuler avec une personne sans que t'as pas vu la personne, tu vas l'avoir.
Mais c'est dans mon rêve.
Autrement dit, dans ton rêve.
Et le lendemain, je suis en colère.
Et t'arrives à voir la personne. Mais donc,
faut que j'appelle petit Manu pour qu'il soit pas en retard.
Voilà. Ah non, mais t'as de la chance, mais comment tu fais ? Parce que imagine, il rêve, il voit la personne. Mais c'est extraordinaire, t'as un côté voyant.
On en parlera après, mais il y a d'autres choses encore plus dingues.
Alors là, je sais pas comment il fait dire.
Et moi d'ailleurs, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi il m'arrive dans mon sommeil de rêver d'une chanson que j'ai aimée. C'est une chanson qui n'existe pas. Hein.
Ah ouais.
Et après quand je me réveille, parfois je la fredonne. Elle me reste en mémoire un petit moment, mais après je l'oublie.
Ouais, c'est dommage.
Ça qui est un peu frustrant.
Tiens, un carnet de rêves.
Un carnet de rêves. C'est une chanson peut-être que tu dois composer.
Je rêve quelque chose et je me réveille. Je me dis, mais j'y rêvais ou j'y imaginais? Je sais pas m'expliquer. Et c'est pas parce qu'on est dans une pensée, on se réveille. On est un bien-être, on se réveille. Est-ce qu'on est arrivé ou pas? Et je suis incapable d'expliquer. Mais c'est curieux, hein, les sensations qu'on
a. C'est entre l'inconscient et le conscient.
Exactement. Là, on va avoir une super émission, Didier. Continue, Fonda.
Alors, quatrième point, écoutez vos émotions. Un rêve ne se comprend pas toujours avec la tête, mais avec le cœur. Demandez-vous, qu'est-ce que ce rêve m'a fait ressentir? C'est souvent l'émotion qui est le vrai message derrière. 5. Accueillir sans jugement. Même les cauchemars ont une fonction. Ils sont souvent l'expression d'une peur, d'un stress, d'une mémoire en libération. Plutôt que de les craindre, on peut les voir comme une soupape qui permet à l'inconscient de relâcher une tension. Et j'ai une petite astuce, si vous-même ou vos enfants avez des cauchemars à répétition, vous pouvez prendre une feuille A4, un feutre rouge, et écrivez en grandes lettres « Va-t'en cauchemar ». Mettez cette feuille sous votre oreiller et observez. Rien n'est garanti, mais pour moi, quand j'étais petite, cela a fonctionné. Et qui ne tente rien, n'a rien. Vous l'avez compris, le rêve est comme une passerelle intérieure et nous rappelle que nous avons en nous cette sagesse profonde. Et une passerelle entre nos parts conscientes et inconscientes, entre notre corps, notre esprit et notre âme. Et si nous apprenions à les écouter davantage, nous verrions qu'ils contribuent directement à notre bien-être. Car mieux dormir, c'est mieux rêver, mais c'est aussi mieux vivre. Alors ce soir, quand vous fermerez les yeux, souvenez-vous, vos rêves ne sont pas de simples images fugaces. Ce sont des éclats de vérité, des morceaux de vous qui cherchent à s'exprimer. Les accueillir, c'est vous accueillir vous-même. Alors prenez soin de vos rêves et ils prendront soin de vous.
Eh ben merci Ponari. Ouais. Seuls 10 à 20% des personnes se rappellent leurs rêves régulièrement. Les rêves les plus facilement mémorisés surviennent généralement juste avant le réveil. Alors, les rêves ne sont-ils qu'un tri de la journée ou ont-ils une signification? Pour répondre à nos questions, nous avons Tristan Moire, spécialiste du langage du rêve. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les rêves ont une signification?
Les rêves dont on se souvient, si on s'en souvient, s'ils restent en mémoire, c'est qu'ils ont un sens. Donc, tous les rêves dont on garde la mémoire, on peut les interpréter.
D'accord, mais comment on analyse un rêve? Est-ce que vous avez une méthode spécifique?
Oui, tout à fait. Je suis spécialiste du langage du rêve, donc je travaille sur le langage du rêve depuis très longtemps pour comprendre son signifiant. C'est un ensemble de signes, comme des hiéroglyphes, qu'on a besoin d'apprendre à décoder pour pouvoir les traduire.
Et quels sont les symboles les plus fréquents dans les rêves et leur signification?
Il y en a la voiture, la maison, les animaux, chien, chat, araignée. Donc il y en a un dont vous voudriez connaître le sens?
Oui, par exemple, si on rêve de voiture.
La voiture, ça représente souvent notre corps.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est notre véhicule de chair.
D'accord.
Donc la voiture représente comment on se représente aussi, mais c'est aussi significatif de nos déplacements. C'est-à-dire qu'on voit comment on se conduit quand on conduit une voiture en rêve.
Et par exemple, si on rêve de voler, de s'envoler?
Alors ça, c'est un rêve qui est extrêmement fréquent. Il est fréquent chez les jeunes enfants. C'est un rêve de compensation. C'est-à-dire que le vol vient apporter une légèreté qui fait défaut dans la réalité. Et donc ça permet de survoler ses problèmes et de s'éloigner de la pesanteur quotidienne. Donc chez un enfant, c'est normal. Chez un adulte, si ses rêves persistent, il a besoin peut-être d'aller voir ce qu'il évite.
Et ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde, hein, sinon à tous, quand on rêve de tomber. C'est quand on s'endort souvent. Hein.
Alors les rêves de chute à l'endormissement, effectivement, ce sont des symptômes fréquents. C'est dû souvent à un vide affectif ressenti à un moment particulier. Et c'est souvent l'absence du père qui va créer ce vide affectif.
Et on peut interpréter un rêve de façon universelle ou c'est propre à chaque individu? Est-ce que, par exemple, la voiture, pour une personne, ça va signifier telle chose, pour une autre, ça signifie complètement autre chose?
Alors ça dépend des écoles, mais comme j'étudie le langage du rêve, que j'étudie vraiment ça de façon très intense, j'arrive à interpréter tous les rêves sans avoir besoin de requérir à l'histoire personnelle du rêve. On a déjà, quand on connaît bien effectivement les images du rêve, ses symboles, la syntaxe du rêve, on a déjà une impression. À 90%, on peut interpréter un rêve sans connaître quoi que ce soit de la personne, quelle que soit sa culture et son époque. Effectivement, on peut affiner, et c'est là où le dialogue avec le rêveur est important.
Parce que scientifiquement, on dit que les rêves servent en fait à faire le tri des émotions, des souvenirs de la journée. Mais est-ce que scientifiquement, c'est reconnu la signification des rêves?
Alors, c'est une science humaine, donc ça ça n'a pas valeur scientifique reproductible, mais la méthode que j'enseigne, elle est quand même reproductible puisqu'on arrive à comprendre le sens. Les rêves dont on se souvient, ce ne sont pas ceux effectivement qui servent à la gestion des émotions, qui servent à l'engrammage des connaissances ou au nettoyage. Les rêves dont on se souvient, ce sont les rêves d'émergence, c'est-à-dire ce que l'on fait au moment où on va se réveiller.
Et comment on interprète ses propres rêves? Vous avez écrit un livre dessus, hein?
Alors j'en ai écrit plusieurs. J'ai écrit surtout « Mieux se connaître grâce à ses rêves » qui permet de comprendre comment effectivement on fonctionne. Mais c'est quand même plus utile, ça fonctionne mieux quand on passe par une personne extérieure. Parce que quand on regarde ses propres rêves, on va toujours avoir tendance à rester au premier degré. Alors qu'un rêve, ça s'interprète toujours au second degré. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit juste dans un rêve au premier degré. Tout est métaphore, tout est parabole, tout est symbolique.
D'accord.
Vous avez dit que vous aviez une méthode pour
interpréter. Ah oui, j'ai une école effectivement où j'enseigne cette méthode, oui, tout à fait.
C'est quoi comme méthode? C'est freudien? C'est quelque chose comme ça ou...
Alors, je me sers des fondements freudiens et jungiens, mais c'est une méthode que j'ai développée puisque actuellement, il n'y a pas vraiment d'enseignement et j'ai construit cette méthode qui vient succéder à l'apport des deux personnes que j'ai citées. Il y en a d'autres, hein. Et c'est le titre de mon prochain livre, L'interprétation du rêve, un siècle après Freud.
D'accord, merci. D'accord.
Et les rêves prémonitoires, alors?
Alors, les rêves prémonitoires, effectivement, ça fascine, ça existe, mais sur un plan, pratique, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'en général, on met en corrélation l'événement qu'une fois qu'il s'est déroulé, oui, par rapport au rêve qu'on aurait pu faire une semaine ou la veille.
Bonjour monsieur, très content de vous connaître. Il y a des gens, malheureusement, dans leur vie, ils ont aucune émotion, ne rêvent jamais. C'est dû à quoi, à votre avis? Ils n'ont aucun souvenir, ils ne se souviennent de rien. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est une maladie?
Non, pas du tout. Bonjour. Non, c'est pas une maladie, c'est simplement un défaut de mémoire. C'est une expression de dire qu'on ne rêve jamais, puisque chacun de nous rêve toute la nuit. Oui, oui. Simplement, on a plus ou moins la mémoire de ses rêves.
D'accord.
Ça dépend des moments, ça dépend de notre âge, ça dépend de notre genre. Il y a plein de choses qui vont interférer ou jouer dans la mémoire des rêves. Quand on ne s'en souvient pas, il y a deux raisons principales. C'est que soit on est très actif, et donc on s'intéresse peu au contenu de ces miasmes du rêve, et dès qu'on se réveille, on se projette dans la réalité et on oublie tout de suite qu'on vient de rêver, soit on est dans un problème de résistance parce que le contenu du rêve nous dérange.
Eh ben merci Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve.
Merci à vous.
Et vous, est-ce que vous faites des rêves conscients, Polary?
Moi, je rêve peu.
Tu t'en souviens pas beaucoup?
Je sais que lorsque je m'en souviens, c'est vraiment à la phase proche du réveil. J'ai une lourdeur de sommeil, peut-être paradoxale. Et là, effectivement, c'est pleinement conscient.
Et Marie-Christine, tu te souviens de tes rêves?
Moi, ce que j'aime, c'est le moment où je m'endors. On commence à divaguer et à rêver. Puis pouf, on se réveille, on ne sait pas pourquoi. Et là, on se souvient un peu qu'on a été dans un autre état et qu'on a des images étranges.
Alors moi, je fais souvent des rêves conscients ou des rêves lucides. Vous savez ce que c'est vous êtes dans un rêve et vous savez que vous rêvez.
Ah, à travers la conscience.
Donc
quoi.
Ça m'arrive quand même assez souvent et j'arrive à les contrôler.
À travers contrôler.
Par exemple, j'étais chez moi, là, j'ai rêvé il y a 2 jours que j'étais chez moi en train de faire des travaux, où j'étais en train de faire une espèce d'enduit métallique dans une de mes chambres. Il n'y a qu'un mur où il y a un enduit métallique, mais dans mon rêve, il y avait les 4. Ah. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis dit, dans la réalité, en fait, je n'ai qu'un mur qui est avec cet enduit métallique, j'en ai pas 4. Et là, je me dis, bien joué, mais je sais que je suis dans un rêve.
Ah, t'en as
conscience. Et là, je savais que j'étais dans un rêve. Et généralement, je fais ce que je veux après. Soit je mange.
Ah, d'accord.
Il y a du croquant après, j'ai l'impression.
Il y a du croquant, ça croque.
Mais est-ce que toi, Didier, ça t'arrive de tout de suite deviner que t'es dans un rêve et pas dans la réalité?
Alors, pas tout de suite, parce que ça m'arrive, je pense, en pleine nuit. Mais j'arrive souvent à me rendre compte que c'est pas la réalité. Il y a toujours un petit détail. Par exemple, je vais chez moi et je me dis, mince, l'interrupteur, il est noir. J'ai pas d'interrupteur noir, il est blanc.
Ah, ouais.
Et là, je comprends que c'est un rêve.
Ah ouais.
Parce que je me dis, ah, le monde a mal été copié, quoi. Ça vous arrive d'être chez vous dans votre rêve et d'ouvrir une porte, c'est pas la cuisine, c'est la salle de bain.
Ah oui.
Ça vous arrive,
vrai,
ça?
C'est vrai, oui.
Ou de se dire, mais comment je suis arrivé là?
Bah ouais, ouais.
J'ai pas le trajet en commun. Et ça, il y a une méthode, d'ailleurs, notre invité nous en a parlé, pour savoir qu'on est dans un rêve conscient ou lucide. Il prend l'exemple, lui, je l'ai entendu en interview, de lire quelque chose. Et si vous retournez dans l'endroit et vous ne voyez plus l'écriture, parce que le cerveau, il a du mal à mettre tout ce qui est écrit. Si vous ne voyez plus cette écriture-là, c'est que vous êtes dans un rêve. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve et vous pouvez le contrôler. Marie-Christine,
en fait, Didier, il se balade dans le multivers.
Ouais, ça m'est arrivé.
Parce que petit Manu, là, tu es dans un rêve, c'est pas la réalité.
Ah, pas du tout. Non, mais des fois, on vit des choses.
Tu vas sonner, tu vas te réveiller.
Non, mais situation, on vit des choses, des fois, on n'est pas certain. Certains, on n'est pas sûr, on angoisse, on ne sait pas comment ça va se passer. Et bien, des fois, je rêve.
Moi, ça m'est arrivé d'avoir des rêves prémonitoires.
Exactement.
Très peu. Mais après, j'avais la sensation de déjà-vu.
Ah ouais,
mais moi donc là, ça fait vraiment bizarre.
C'était quoi comme rêve prémonitoire?
C'est vraiment c'est vraiment des petits détails de rien du tout. J'ai rencontré cette personne à un moment donné et puis dans la réalité, je la connaissais pas et j'ai reconnu cette personne.
D'accord.
Moi, j'ai rêvé de mon sujet de bac.
Ah bon?
On avait fait les révisions en tout début d'année. J'ai rêvé de mon sujet de bac. J'ai regardé le matin ce sujet-là qu'on n'avait pas vu et c'est tombé. Ah, j'étais contente.
Les intuitions, c'est curieux.
Alors, il paraît qu'on ne rêve jamais de personnes qu'on ne connaît pas. Le visage, il est toujours au moins un mix de personnes qu'on connaît. On ne peut pas inventer un visage.
C'est pas la personne exacte, mais c'est un mélange. Voilà.
C'est toujours quelqu'un qu'on a vu.
C'est un rappel de quelqu'un.
Voilà. Avant d'ouvrir notre page culture,
Pop avec Eric, musical avec Kevin, comme tu veux.
Et
Il y avait musical avec Kevin et Pop avec Eric.
Et la troisième, c'est qui?
Stani.
Qu'est-ce qu'elle fait?
C'est pour la télévision.
Bon, voilà.
On pense à elle, Stani, à distance. On espère qu'elle va bien, Stani.
Pour la RTBF. Oh.
Et ben, je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin.
Voilà.
Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. Les rêves ne sont pas uniquement visuels, ils peuvent inclure des sons, des voix, de la musique, des bruits. Une étude menée en 2003 sur plus de 4000 rapports de rêves a montré que 30 à 40% des rêves contiennent des sons ou des dialogues verbaux. Les rêves avec sons sont plus fréquents chez les personnes qui écoutent beaucoup de musique ou interagissent avec des sons dans la vie quotidienne. Le cerveau peut rejouer des sons entendus pendant la journée, comme nous l'avait dit Kevin, ou combiner des éléments pour créer des sons inédits. Certaines expériences de stimulation sonore pendant le sommeil ont montré qu'on peut influencer les rêves. Par exemple, écouter une mélodie douce pendant le sommeil peut faire apparaître cette musique dans le rêve. Quelles sont les chansons qui parlent de rêves ? C'est ce que nous allons découvrir dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, ah, quiz attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, là, je vais me porter sur un truc.
Mais saute-toi.
Alors si ça m'est arrivé de rêver de chansons qui n'existaient pas pendant mon sommeil, les chansons que je vais vous proposer sont bien réelles pour le coup et elles évoquent toutes le rêve. À commencer par cette première chanson, avez-vous reconnu la chanteuse ?
Ah,
et oui, Maria Carey, hein, avec
ce. On reconnaît tout de suite.
On reconnaît sa voix, ouais. Mais est-ce que tu connais cette chanson?
Dream Lover.
Oh, yes. Elle a des connaissances. C'est
qui bien. Signifie en français.
Oui, son album.
Ah. Tu sais en quelle année il est sorti l'album?
Oh, je ne saurais pas te dire, ah. Les années.
Cette chanson est sortie en 1993.
Ouais, d'accord.
Maria Carey avait 24 ans. Dream Lover, ça veut dire quoi en français, petit Manu?
Attends, répète.
Dream Lover. Alors, Dream, c'est quoi?
Dreams.
Rêve.
Les rêves?
Oui.
Les rêves.
Et Lover?
Elle n'aime plus les rêves, quelque chose de.
Non, Lover, ça veut dire.
Aimer, l'amour.
Oui, voilà, l'amour de mes rêves.
Voilà, c'est ça, l'amour de ses rêves. Voilà. On fait une analyse, voilà.
Et oui, Dream Lover, chanson de Maria Carey, sortie, je l'ai dit, en 1993. C'est un titre qui parle du fait d'attendre le véritable amour. Dans cette chanson, Maria Carey, elle exprime son désir de rencontrer quelqu'un qui saura l'aimer sincèrement, sans superficialité ni faux semblant. J'espère que c'est ce qui lui est arrivé. Le terme de Dream Lover, il renvoie à cet idéal amoureux qu'elle souhaite voir apparaître dans sa vie. Quelqu'un qui lui apporte à la fois la tendresse, la confiance et la stabilité. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez que ça vous arrive à chacun de vous?
Évidemment.
Évidemment, bien sûr.
Évidemment, mais ça relève du divin, ça.
Évidemment,
on cherche
tout ça. Oui, évidemment.
Ça s'appelle la perle rare, c'est pas pour rien.
Ah, exactement. T'as tout à fait bien résumé. J'ai bien le bleu qu'il y a eu. Ouh là là, vraiment, c'était.
Tout le monde prend un temps de réflexion.
Non, réfléchis, c'est bon, la conscience.
Ce qu'elle veut dire dans cette chanson, Maria Carey, c'est que chacun a droit à un amour idéal, pur et rassurant. Même toi, petit Manu.
Mais par contre, oui, le grand amour, une fois dans la vie, il paraît que c'est.
En fait, je veux dire, ça fait partie du rêve.
Ah oui, ça fait.
Tout à fait, oui.
Ça devient réalité, après, c'est une question, quoi.
Et cette autre chanson fait partie du rêve aussi. C'est un groupe, de qui il s'agit, à votre avis?
Abba?
Oui, Abba, j'allais Abba, dire.
Voilà,
c'est de quel pays Abba, à votre avis?
La Suède.
Oui, Suède, tout à fait. Et cette chanson s'intitule « J'ai un rêve, mais à l'anglaise ».
I have a dream.
Yes,
oh, I have a dream. Chante un petit peu. N'aie pas peur, t'inquiète
non,
pas.
Non, il faut venir au karaoké avec moi.
Ah, bah. Ah, tu veux. Ah, non, mais pourquoi pas, ça serait.
Il y a un défi lancé là.
Oh là là.
Ah oui,
grand. Et ça
défi.
Tombe bien, tu vas faire rêver petit Manu.
Oh bah. Non, je veux bien aller au karaoké, tu vas faire qu'on s'organise pour d'arriver.
Moi, je sais pas slammer.
Ah non, mais c'est différent. Le canard, on reprend la musique de Trou, c'est assez simple.
Et oui, I Have a Dream, d'abord, chanson extraite de leur sixième album studio, Voulez-vous, sorti en 1979, un titre français pour le coup. Et cette chanson, I Have a Dream, elle parle du fait de croire aux anges, aux contes de fées et aux rêves comme une force intérieure qui aide à traverser les épreuves. Et cette chanson, c'est faut la voir aussi comme une métaphore universelle de l'espérance.
Un bon message, quoi.
L'espoir.
Exactement. Mais cette chanson, avant de dormir, ça peut servir de berceuse.
Ah hein, oui, compris. Parce que c'est vrai que ça berce, c'est harmonieux. Hein.
Bon, bah, je vais suivre tes conseils, Kevin, et les conseils de Ponari ce soir. Ah,
bonne idée. Ouais. Alors, on passe à la troisième chanson. C'est une chanteuse, et j'ai envie de dire, tout est dans le titre.
C'est Leslie.
Non, mais un peu dans la même veine.
Elle a pas mes rêves, Lucky.
Cette chanteuse, elle s'appelle Nawel, mais c'est pas sous ce nom qu'elle est connue. Ça vous dit quelque chose, Wallen?
Qui?
Wallen, ça vous dit rien?
Non. Elle n'est pas d'origine américaine?
Non, algérienne.
Algérienne.
Et ça vous dit quelque chose, Abdelmalik?
Ah, ça, oui, c'est un musicien, Abdelmalik.
Un slammer.
Tout à fait, un slammer aussi.
Et en fait, il s'agit de la femme d'Abdelmalik.
Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'elle est chanteuse?
C'est ça, oui.
Oh, bah, bon, mais peut-être que. Je ne sais pas si elle chante.
Elle ne chante plus beaucoup en ce moment, mais ouais. Cette chanson, elle date de 2001.
D'accord. Donc, elle est aussi chanteuse, il faut savoir.
C'est ça, oui. Ah, mais les paroles sont faciles à retenir, je trouve.
Ah, bah.
Vous connaissez cette chanson ou pas?
Bah non, quoi. On te remercie beaucoup, on est très reconnaissants, Kevin, hein, parce que vous connaissez?
Du tout, non.
Ah bah non, bah non, alors on fait une sacrée découverte aussi.
Moi je connaissais, mais je savais pas qui chantait.
Attends, t'avais-tu entendu parler? As-tu entendu? Ah bah alors là...
Alors ce titre, Mes rêves de Wallen, il parle d'une quête d'accomplissement personnel et de la force que donnent les rêves pour avancer malgré les obstacles. Dans la chanson, Wallen, elle exprime que même si la vie peut être dure ou injuste, eh bien ce sont les rêves qui nous font tenir debout et qui donnent un sens à notre parcours. Faut toujours croire vraiment en nos rêves.
C'est très philosophique aussi, j'ai l'impression.
Ouais,
c'est les rêves conscients.
Bah ouais,
c'est conscience. Ça, oui. C'est une façon aussi de dire qu'il faut croire en soi et en ses ambitions. Et voilà.
C'est un beau message.
Ah oui, c'est un beau message empathique d'espoir.
Et on passe à un chanteur cette fois qui est français et qui fait la même chose que toi, petit Manu.
Ah
de
bon
qui il s'agit?
Je ne sais pas, parce qu'un Kevin, il sait beaucoup, hein, il connaît pas
bien. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé.
Ah, ça t'a fait encore malade. Fabien, c'est grand corps malade.
Exactement.
Et qui a même chanté avec Ben aussi.
Ben Mazoué, exactement.
Ben Mazoué, oh là là, d'une grande gentillesse. Bonjour Fabien, oh là là. On fait un slam différent, hein.
Les femmes en rêvent.
Oh oui, mais d'une grande gentillesse. Très gentille. Non, mais vraiment, j'ai vu. Non,
je peux vous dire, Christine, tu as des choses à dire?
Non.
Quand il parle de la chanson sur les femmes,
oui, puis
c'est très émouvant.
Il a fait beaucoup pour les autres.
Oui,
Fabien, extraordinaire. Vraiment. Voilà.
C'est vrai qu'il est très gentil, j'ai déjà
vu. Ah oui, ah bah, je peux vous dire, je l'ai vu une fois.
Oh en concert privé, en plus. Pas beaucoup, il nous a fait un concert.
Ah
où
bon
ça?
Ah bon?
Là où je travaille.
Ah bon?
Ouais, il est venu, il nous a
fait un concert. T'as dû passer à mon moment. Moi aussi, j'ai vu un autographe, j'ai passé l'après-midi. Ah, et vraiment, c'est d'une gentillesse. Il n'y a pas plus gentil que Fabien.
Moi, je regrette de ne pas l'avoir connu.
Ah non, mais ça, je
suis. Il est
encore
gentil.
Vivant.
Ah oui.
Mais tu peux encore le rencontrer.
Il est vachement disponible en plus. Ouais, il est très.
Oui, il n'y a pas plus gentil que lui.
Ah, mais j'ai pas son 06.
Marc-Christine, si un jour tu as l'occasion de le voir, je te conseille d'aller le voir. Tu passeras un moment marqué d'une pierre.
On va se calmer.
Alors, cette chanson de Grand Corps Malade s'intitule Retiens les rêves. Elle est extraite de son album Reflet qui est sorti en octobre 2023. C'est une chanson dans laquelle il évoque avec douceur et poésie, il livre un message et c'est une manière aussi de dire que garder ses rêves, ça devient une question de transmission aux enfants et aux jeunes générations et qu'il faut rester fidèle à soi-même et s'accrocher aussi aux rêves malgré les années. Car c'est aussi un message de père de famille qui livre.
Ah, tout à fait, il a des enfants.
Ce cher Fabien Marceau.
Un grand bonjour amical, et quand il était jeune, il habitait à Saint-Denis. Non, mais c'est vrai en plus, oh là là.
On écoute le refrain.
Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve? Que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. Quand ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense.
Et on termine avec un célèbre chanteur. De qui il s'agit à votre avis?
Jean-Jacques Goldman,
comme d'habitude.
Et oui, Jean-Jacques Goldman avec.
Au bout de mes rêves.
Au bout de mes rêves, tout simplement. Chanson extraite de son premier album solo intitulé Démodé, sorti en 1982, qui est l'un de ses titres emblématiques. Hein. C'est dans cet album qu'il y a aussi la chanson Il suffira d'un signe. Je vous propose qu'on écoute le refrain.
J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves,
changer de terre ou de train.
Est-ce que vous savez de quel groupe il a fait partie, Jean-Jacques Goldman, avant de lancer sa carrière solo? Le nom de son groupe?
Taifong.
Taifong. Exactement, voilà, c'est ça, j'avais le nom sur le bout de la langue.
Et il a fait aussi une grande rencontre au sein de ce groupe. Avec qui, à votre avis?
Avec Michael Jones.
Tout à fait.
Michael Jones aussi. Puis au début, il ne voulait pas devenir musicien. Il faisait de la batterie, je crois. Voilà. Et après, il est comme ça. Et, voilà.
Et dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman, intitulée Au bout de mes rêves, que vous avez sûrement déjà tous entendu une fois dans votre vie, chers auditeurs, il affirme que malgré les obstacles, les jugements ou les découragements, il faut poursuivre ses rêves jusqu'au bout. Et il veut mettre en avant aussi cette volonté de persévérance. Car oui, voilà, tout à fait. Car les rêves peuvent sembler fous, naïfs ou irréalistes, mais ce sont eux qui donnent un cap à l'existence. En résumé, dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman, il veut transmettre l'idée que les rêves ne valent que s'ils sont poursuivis avec détermination, avec rage, et qu'il faut toujours s'y accrocher, même quand on n'y croit plus, quoi,
ouais,
tout
c'est
simplement.
C'est pas toujours facile pour certaines personnes, mais il y a des gens qui passent des moments difficiles. Il faut y croire, la conviction.
Tout à fait. Ouais. Sur ce, je vous invite à aller toujours au bout de vos rêves.
Et Kevin, il y a une chose que je voudrais dire. Tout à l'heure, je parlais d'un chanteur, alors c'est pas au niveau des rêves, mais je parlais de Étienne Dao. C'est ce qu'il disait, la nuit porte conseil. Mmh. Et donc, c'est pas les rêves, mais il parlait de la nuit. Et bien, encore un artiste. Je sais pas si tu as vécu, mais il a fait une chanson sur les rêves la nuit. Et ben, on peut avoir une pensée pour Étienne Dao aussi, qui a fait beaucoup de duos avec d'autres personnes aussi.
Et ben, merci Kevin. On continue à parler de rêves sur IDFM Radio jusqu'à 22h avec l'angle série télé. Rêve ou cauchemar, le monde onirique semble être une source d'inspiration quasi inépuisable pour le cinéma de tous les genres. De l'horrifique Les Griffes de la Nuit dans la version originale de Wes Craven en 1984, puis celle de Samuel Bayer en 2010, dans lequel Freddy
Mercury.
Mais non, Freddy Krueger.
Krueger, voilà.
Oh, Freddy Mercury.
Ah, c'est une grosse
couille. Ah, ça pourrait, hein.
Voilà, c'était un grand chanteur quand même, un autre Freddy.
Freddy Krueger, c'est l'homme au visage brûlé et aux lames tranchantes à la place des doigts.
Ah, oui, il est des, voilà. Oui, c'est ça. C'est pas le même registre. On parle de la même chose. Ah oui.
Qui se sert des cauchemars de ses victimes pour les assassiner durant leur sommeil, en passant par le futuriste Total Recall de Paul Verhoeven en 1990 dans lequel qui joue
Arnold Schwarzenegger.
Voilà,
oui.
Et hanté par un... aussi.
Oui, il est hanté par un cauchemar récurrent qui l'entraîne sur la planète Mars, sans oublier ceux destinés au jeune public comme Histoire sans fin en 1984, ou la version cinéma d'Alice au Pays des Merveilles en 2010, dans lequel les jeunes héros sont projetés dans un monde imaginaire, que de films cultes qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Et du côté des séries, quelles sont celles qui nous plongent dans les rêves de personnages et de quelle manière? C'est ce que nous allons voir avec...
Stani. On la salue amicalement. On espère qu'elle va bien au studio. Des belles choses, Stani.
Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les séries pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui est si jolie.
Eh bien, chers auditeurs, du côté des séries, on en distingue deux types, celles dont la trame principale est le thème des rêves et celles qui ont utilisé le rêve d'un personnage comme prétexte pour annuler tout ou partie de leur intrigue. Dans la première catégorie, on peut citer une série pas toute jeune, Sleepwalkers, Chasseurs de rêves. Une seule saison, 9 épisodes de 42 minutes entre 1997 et 1998 sur le réseau NBC et en France en 2003 sur Série Club. Le docteur Nathan Bradford, joué par Bruce Greenwood, récemment vu dans la série The Resident, spécialiste du sommeil, a mis au point une technologie permettant d'entrer dans les rêves de ses patients et de les contrôler. Il décide de l'utiliser en psychiatrie pour déterminer quels sont les problèmes exacts des malades, entouré de son équipe de chasseurs de rêves. Une série qui n'a pas vraiment fait rêver les téléspectateurs. Pas plus qu'une autre fiction fantastique bien plus récente qui nous plonge également dans un univers onirique, la série anglo-américaine Sandman, littéralement le marchand de sable sur Netflix. Deux saisons, 22 épisodes entre 37 et 64 minutes de 2022 à 2025. Basée sur la série de romans graphiques DC Comics éponyme de Neil Gaiman, publiée entre 1989 et 1996, cette adaptation télévisuelle, fidèle à l'univers de l'auteur,
pas étonnant puisqu'il y a collaboré, nous entraîne dans le périple de Morpheus, seigneur des rêves, joué par Tom Sturridge. Retenu captif pendant plus d'un siècle, il entend restaurer l'ordre d'un monde qui a sombré dans le chaos pendant son absence, notamment touché par une épidémie de maladie du sommeil. Pour ça, il doit voyager entre les deux mondes, le monde des rêves et le monde éveillé, retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pleins pouvoirs. Deux séries fantastiques nous entraînent donc loin de la réalité, et pourtant peut-être plus crédibles que le feuilleton américain dont je vais vous parler maintenant, et qui a poussé l'utilisation du rêve à son maximum en faisant passer toute une saison comme étant en réalité le rêve d'un personnage. J'espère que je ne vous ai pas perdu là, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique. C'est sans doute le feuilleton dramatique phare des années 80, avec un des génériques les plus cultes de toute l'histoire du générique. D'ailleurs, les moins jeunes d'entre vous ont peut-être déjà trouvé. Dallas, bien sûr, dont l'univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Dallas, qui sous son soleil implacable, ne redoute que la mort. Estimez-vous chanceux, je vous ai épargné la version chantée. 14 saisons, 357 épisodes de 45 minutes entre 1978 et 1991 sur le réseau CBS, en France entre 1981 et 1996 sur TF1, et un reboot a aussi vu le jour entre 2012 et 2014. On y suit pendant plus d'une décennie la vie pour le moins mouvementée des membres de la richissime famille Ewing, éleveur de bétail et exploitant d'un énorme empire pétrolier au sein du prestigieux ranch de South Fork, non loin de la ville de Dallas, donc au Texas. Les ennuis commencent lorsqu'un des trois fils de la famille, Bobby Ewing, le gentil et le chouchou, interprété par Patrick Duffy, épouse Pamela, la fille du clan Barnes, les ennemis jurés de la famille Ewing. Entre secrets, manigances, coups bas, trahison, consanguinité, luxure, cupidité et j'en passe, bienvenue dans un univers aussi impitoyable qu'addictif. Mais vous me direz, quel rapport avec notre thématique des rêves ? Eh bien, figurez-vous que la série Dallas est aussi célèbre pour avoir utilisé une pirouette aussi mémorable que grossière pour faire revenir un des personnages principaux après l'avoir fait mourir, a priori sans retour possible. Et pourtant, à la fin de la saison 8, le fils préféré, Bobby Ewing donc, encore lui, renversé par une voiture, meurt à l'hôpital. En septembre 1985, les téléspectateurs découvrent donc la suite du soap privé de leur chouchou. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Entre audience en berne et séries concurrentes émergentes, le feuilleton joue gros. Et de son côté, les autres projets sur grand écran de l'acteur ne sont pas forcément concluants non plus. Arrivent alors les dernières minutes de l'épisode 31 intitulé « Un écho du passé ». Comme intriguée par un bruit, Pamela sort de son lit, se dirige vers la salle de bain, ouvre la porte de la douche et là, surprise ! Derrière les vapeurs d'eau chaude, on voit progressivement apparaître Bobby, tout sourire, qui lâche un « Bonjour, ça va ?» Et la saison 9 se clôt sur cette scène surréaliste. Un scénario clairement tiré par les cheveux et que personne n'avait vu venir, mais qui a largement fait parler, aujourd'hui on dirait qu'il a fait le buzz, et qui a eu le mérite de redonner de l'élan à la série en permettant de ramener un personnage décédé. Une pirouette qui a d'ailleurs inspiré d'autres séries qui ont utilisé le même stratagème, mais de manière peut-être un peu plus subtile. Sur ce, je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On termine cette émission par de la culture
pop. Pop. Ça va déménager. Pop.
Voilà, pop. Publié au Japon en 1993, l'œuvre Paprika de l'auteur japonais Yasutaka Tsutsui a inspiré le réalisateur Satoshi Kon pour la réalisation du film d'animation culte portant le même nom. Paprika met en évidence un dispositif capable de pénétrer le subconscient par le rêve. L'adaptation animée est sortie dans les salles en 2006 et a su s'imposer comme une œuvre rappelant combien nos rêves sont particuliers. En juillet 2010, le film Inception du réalisateur Christopher Nolan plonge le voyage dans les rêves à la sauce blockbuster, rappelant étrangement l'œuvre de Satoshi Kon. Suivons Eric dans sa pop chronique afin de comprendre pourquoi ses œuvres sont fidèles à nos rêves. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop, jazz, pop.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps ?
Il va nous aider, Eric ! Oh là 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 !
Ressorti en salle au printemps 2025, le long métrage d'animation japonais Paprika du réalisateur Satoshi Kon nous transporte dans un futur proche où la science-fiction a réussi à créer une machine, le DC Mini. Grâce à cette machine, il est possible de rentrer dans les rêves des patients sous traitement psychothérapeutique afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l'inconscient. C'est sous l'apparence de son alter ego Paprika que le docteur Atsuko Shiba voyage dans les rêves.
C'est pas Papita.
Papita, non.
Et pas Pépita.
Pépita, non.
Travel, Pépita,
Manu. Oui, oui, c'était sur France 2. France 2, l'animatrice. En revanche, Didier, je peux te faire un compliment. Bravo pour les noms en japonais, prénoms. T'as dû bien entraîner.
Bah, je crois que je les ai écorchés, de toute façon.
Oui, bah, enfin, en tout cas, t'as bien dit en articulant, moi, une petite erreur. Moi, je vais te féliciter. Bon. Reprends, cher Eric. Ah bah, bravo.
Bah, s'il y a des japonais qui nous écoutent,
hein, ah bon, on sait pas. Jamais. C'est international, l'émission, on sait jamais. Bonjour au Japon.
D'ailleurs, une fois, une japonaise qui vit à Tokyo nous a fait le lancement de Big Bang en japonais.
Ah, bah, tu vois.
Il y a très, très longtemps.
Ah, ouais. Ah, là, comme quoi.
Je sais pas si Eric, tu trouveras le podcast pour le mettre en ligne.
Voilà. Faudrait que je fasse de l'archi.
Peut-être ouais, ouais. Spécial Japon, je sais plus.
Moi, voilà. Bon, en tout cas, comme quoi ça. Oh, tu dis quoi ?
Alors, c'est un dispositif assez intéressant car les rêves sont enregistrés pour être mieux analysés sur un banc de montage comme en traitement d'image. Sauf que le prototype est volé et les scientifiques sont en panique car c'est toujours en phase de test et que dans de mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Le docteur Atsuko Shiba décide alors de s'aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s'est emparé du décès mini et pour quelle raison. Alors, ce film d'animation aborde la relation entre notre identité et notre subconscient. Par la magie de l'animation, on est souvent transporté de rêve en rêve et ce n'est pas sans rappeler les nôtres. Il n'y a qu'à voir la scène de début où on commence une poursuite dans un cirque et se poursuit dans un train, entrecoupé par une scène dans la jungle. Je pense à l'ouverture du film, hein, quand la petite voiture arrive sur scène et on sort un clown grandeur nature surréaliste comme les rêves que l'on peut faire. Si l'enjeu de traquer le voleur du DC Mini est important, c'est bien parce qu'il y a une part de réalité dans nos rêves. Ces songes ne cacheraient-ils pas une part de nous-mêmes? Tel un hypnotiseur, pouvons-nous contrôler les personnes et avoir une emprise sur eux? Tant de questions et réflexions offertes par ce bijou d'animation à redécouvrir ou à découvrir, emporté par une bande originale excellente, hein, le compositeur Susumu Hirasawa, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un peu l'équivalent de notre Jean-Michel Jarre français.
Ah, il fait de la musique un peu synthé.
C'est ça, exactement, voilà, qui a oui. Composé beaucoup pour des films d'animation.
Autrement dit, il doit avoir beaucoup de talent.
Ah oui, bah, je vous invite à l'écouter, hein, vous pouvez l'écouter en ligne, c'est vraiment une.
Non, c'est bon à savoir.
Et il a su, dans cette œuvre, composer une BO digne de nos rêves. Alors, dans le film Inception de Christopher Nolan, sorti en 2006, il s'agit aussi de pénétrer les rêves avec un certain Dom Cobb, dont le talent est de s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve. Son talent ne passe pas inaperçu et il se retrouve fugitif à tel point qu'il se voit dans l'obligation d'accepter une mission. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, donc accomplir l'impossible, l'inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. Mais tout n'est pas si simple quand Cobb réalise qu'un ennemi redoutable semble avoir systématiquement un coup d'avance sur lui. Alors le film joue avec les codes de nos rêves, mais va encore plus loin. Le réalisateur avoue qu'il s'est inspiré de ses rêves. Dans la composition des personnages, on peut dire qu'en chacun d'eux se trouvent les ingrédients pour obtenir un rêve rappelant les 4 cycles du sommeil. Donc, nous avons un personnage qui contrôle l'endormissement et le réveil, un architecte des rêves, un personnage qui joue différents rôles dans les rêves et enfin le personnage central qui joue un rôle moteur dans les rêves. La notion du temps est aussi évoquée dans les rêves. Plus on est enfoui dans le rêve, plus le temps est long, ce qui permet à nos personnages de faire croire à l'intéressé quelque chose qui l'a mûri pendant longtemps, comme quand on s'en souvient en détail de nos rêves. Il y a aussi une quête de vérité et de compréhension de soi. On retrouve des jeux de miroir dans le film qui nous rappellent la psychanalyse des rêves, surtout avec le personnage de Cobb qui retrouve sa femme décédée dans les rêves. On comprend les raisons de son chagrin et son désarroi. Emporter la BO de Hans Zimmer, que vous connaissez tous, hein, donc qui a fait la bande originale de Pirates des Caraïbes, entre autres. Ce thriller psychanalytique n'est pas sans rappeler Paprika. Étrangement, Christopher Nolan n'a jamais vraiment évoqué la similarité frappante entre son film et celui de Satoshi Kon, mais cela ne fait aucun doute à en comparer une certaine scène, celle du couloir, du miroir et de l'hôtel des deux films. On lui donnera quand même le mérite d'avoir réussi à transposer en prise de vue réelle les particularités de nos rêves, au même titre que Satoshi Kon a réussi à emmener l'animation encore plus loin, au plus près de nos rêves. Sur ce, amis de la pop culture, je retourne à mes songes et vous souhaite de beaux rêves.
Merci Eric. Et cette émission sur les rêves, c'est déjà
fini. Non. Que c'est intéressant, on aurait pu rester longtemps encore, hein. Tellement de choses à dire, mais c'est, on a bien dit, quoi.
Vous avez loupé le début de l'émission, vous voulez la réécouter. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe de Paul Valéry. Le verbe est le phénomène que nous n'observons que pendant son absence. Le verbe rêver n'a presque pas de présent. Je rêve, tu rêves.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, un nouveau thème.
Eh ben, ça sera sur les gens, les anges.
Les anges morts.
Eh ben,
il n'y a pas de H devant.
Oui, on peut penser à l'ange Gabriel aussi, un ange connu. On en parlera la semaine prochaine. Eh ben, à notre sujet, très intéressant.
Salut à toutes et à tous.
Salut et faites de beaux rêves.
Et oui, profitez bien. On ne répétera jamais assez. Profitez bien cette semaine des rêves en particulier. Ah ben, bah, tiens, très bonne idée. Ah ben, bah, vaste sujet, vaste question. À la semaine prochaine.
Okay, let's stop.